Expression
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous partons pour les coulisses des Nations Unies. D'abord, on essaiera de comprendre quelle est la stratégie de Donald Trump. Il vient de parler à la tribune, stratégie vis-à-vis de l'Iran. Un jour oui, un jour non, un jour la guerre, l'autre la diplomatie. Et puis nous irons aussi dans les couloirs des Nations Unies avec Cyril Graziani dans les rencontres, les chuchotements, la diplomatie d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passe derrière la tribune et dans les couloirs? C'est ce qu'on verra ensemble. 18h50, Julia Foyce et Pas son genre dans le monde. Julia qui elle aussi a passé une tête à l'ONU pour entendre que l'IVG n'est un droit ni fondamental ni international de l'être humain. Et je vous dis pas dans quel état ça l'a mise. 18h55, Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Sacré British ou quand les institutions prennent parfois leur revanche sur le désordre. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Et bonsoir Pierre Grosset.
Bonsoir.
Professeur d'histoire et de relations internationales, notamment à Sciences Po. On ne sait toujours pas à l'heure qu'il est si à l'Assemblée générale des Nations Unies, finalement, il y aura cette fameuse rencontre entre Rouhani et Trump. A priori non, mais enfin... Allez savoir, on a entendu aussi les mots qui ont été dits à la tribune, l'Iran parrain du terrorisme mondial, etc., etc. Est-ce que vous y croyez, vous, à une rencontre de ce type ou pas du tout?
Avec Trump, il faut s'attendre à tout.
C'est pour ça qu'on pose quand même la question au cas où.
En plus, en diplomatie, il ne faut jamais dire jamais. Donc si on ajoute les deux, il y a des fortes chances, non pas à ce moment-là, donc parce qu'il y a aussi les élections, les problèmes d'impeachment aujourd'hui pour le président. Mais je veux dire, c'est un de ses objectifs de faire pression pour ensuite négocier ce qu'il a essayé de faire avec la Corée du Nord. Ça ne veut pas dire que les négociations sont positives, mais enfin, c'est ça qu'il veut faire.
Mais avec la Corée, il y avait quelque chose du coup aussi. Donc on a l'impression que, y compris avec Rouhani, ce que cherche Trump, c'est un coup, c'est la photo, c'est la poignée de main. Mais est-ce qu'il cherche réellement au-delà, en fait, de ça?
Oui, je pense qu'il a, notamment en vue des élections, l'intention de se présenter quand même comme un faiseur de paix. Parce que pour le moment, il a défait beaucoup de choses, mais il n'a pas construit. La seule construction, en tout cas le seul événement qui a eu une portée symbolique, c'est ses rencontres avec Kim Jong-un. Il a encore rappelé qu'il aimerait bien avoir le prix Nobel de la paix. Enfin, il a même dit que ça serait normal de lui donner le prix Nobel de la paix. Comme il a toujours Obama en point de mire, c'est quelque chose qui, à mon avis, est important pour lui de faire quelque chose avant les élections.
Et au fond, ce qui ressort, et d'ailleurs depuis le début, y compris quand un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est la guerre, le lendemain plus, au fond, il en veut pas, il en veut certainement pas de la guerre, Donald Trump. Vous parliez tout à l'heure des élections à venir, de l'impeachment qui est dans l'air. C'est la dernière chose dont il a besoin de renvoyer les États-Unis en guerre de toute façon.
Oui, enfin faire la guerre aussi à la fin de son mandat, c'est toujours très très compliqué. Hein, quand le président Bush père avait commencé la guerre en Somalie, c'est Clinton qui en a hérité. Donc voilà, c'est toujours un peu.
Et ça s'est pas bien terminé.
Et en plus, ça, effectivement, ça ne s'est pas très bien terminé. Le problème, c'est que vous avez la personnalité de Trump qui est complexe avec des impulsions qui sont contraires. Et en même temps, il faut bien voir que ça reflète aussi une réalité qui est la politique américaine au Moyen-Orient. À l'époque d'Obama, c'était la même chose. C'est-à-dire, on sent qu'il faut faire quelque chose. On sent qu'il y a un problème avec l'Iran. Israël, évidemment, est le premier à dire qu'il y a un problème avec l'Iran. L'Arabie Saoudite est le second à dire qu'il y a un problème avec l'Iran. Mais en même temps, les Américains veulent en partie se dégager du Moyen-Orient. Pour le moment, ils ne le font pas vraiment. Il y a toujours 60 000 hommes au Moyen-Orient. Et donc, il y a une espèce de dilemme permanent. Qu'est-ce qu'on fait au Moyen-Orient? Est-ce que c'est encore une région absolument essentielle pour la stratégie américaine? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de mettre toutes ses billes parce que face à la Chine, parce que le vrai défi de demain, c'est la Chine? Et donc, voilà, il y a à la fois la personnalité de Trump et en même temps cette vraie question qui est qu'est-ce que les Américains font encore au Moyen-Orient? Est-ce que c'est important pour eux?
Mais on a l'impression d'une espèce de diplomatie sur le tas, en fait, d'improvisation sur le tas. C'est quand même un peu plus compliqué que ça, évidemment. Est-ce qu'il y a une ligne directrice, quand même, dans l'attitude de Trump vis-à-vis de l'Iran? Est-ce qu'on peut la lire, quand vous regarderez les choses en arrière d'ici peut-être un an ou deux ou trois, quand vous regarderez que vous pencheriez sur Trump et l'Iran, est-ce qu'on se dit qu'il y a quelque chose de finalement assez linéaire qu'on voit pas pour l'instant maintenant ou pas? Est-ce que tout ça est très cohérent?
Alors il y a deux éléments qui touchent au linéaire, si vous voulez. Le premier, c'est qu'il a quand même déchiré un accord que, en gros, la communauté internationale avait trouvé relativement satisfaisant. Je dis bien relativement satisfaisant, puisque en gros, et les Français les premiers aimeraient bien rajouter d'autres questions qui sont la question balistique, donc des missiles iraniens, et d'autre part, l'ensemble de la politique iranienne au Moyen-Orient. Donc, il a déchiré cet accord, et donc la question est de savoir ce qu'il va faire ensuite. C'est-à-dire, l'idéal, c'est d'avoir un nouvel accord qui soit un meilleur accord. Bon, ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est la stratégie de pression qui est en gros héritière aussi de sa manière de négocier sans doute les deals dans le domaine de l'immobilier. C'est-à-dire qu'on fait pression, on tord le bras et on attend que l'autre, d'une certaine façon, capitule. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Iran n'a pas du tout l'intention de capituler, que l'Iran n'est pas spécialement en position de faiblesse malgré les difficultés économiques, et que comme en même temps, il y a ce refus de faire la guerre qui était déjà à l'époque d'Obama et qu'on retrouve à l'époque de Trump, eh bien, on peut considérer que l'Iran peut faire autant de provocations qu'il veut en étant persuadé que finalement, il n'y aura pas la guerre.
Et vous l'avez évoqué par deux fois déjà, est-ce qu'il y a vraiment une différence, dans la méthode, ça clairement, mais est-ce qu'il y a vraiment une différence au fond entre Trump et Obama vis-à-vis de l'Iran et du Moyen-Orient? Quand on y songe, le but en tout cas à la fin, est-ce que c'est pas exactement le même? Celui du désengagement américain, celui d'une autre manière de voir le Moyen-Orient?
Oui, enfin, le désengagement, je pense qu'il sera toujours relativement limité, c'est-à-dire que le Moyen-Orient sera moins important. Je vous rappelle quand même, il faut avoir, désolé de refaire un peu l'historien,
non, je vous en prie.
Mais qu'en gros, l'essentiel des morts de guerre américains depuis 1945 jusqu'en 1979, ils sont morts en Asie, en Asie orientale, Corée, Vietnam, etc. Depuis 79, la plupart des morts, la quasi-totalité des morts américains de guerre sont morts dans le Grand Moyen-Orient. Donc voilà, vous avez un abcès de fixation avec une multiplication de guerres. Donc effectivement, il faut gérer le Moyen-Orient autrement, mais le Moyen-Orient reste important pour l'ensemble des relations internationales. Et en plus, avec la montée de la Chine peut avoir un rôle à jouer au Moyen-Orient. Donc là, il y a effectivement des dilemmes qui sont relativement similaires, mais la politique est quand même assez différente, puisque quand même, l'objectif d'Obama, semble-t-il, parce que c'est toujours très très difficile de reconstituer les objectifs d'Obama, ça a été de créer une espèce d'équilibre en se rapprochant quelque peu de l'Iran, en faisant cet accord, tout en ne s'engageant pas trop derrière Israël et l'Arabie Saoudite. Du coup, l'Israël et l'Arabie Saoudite ont été très très négatifs sur Obama. Aujourd'hui, on a eu l'impression plutôt d'une politique très différente, c'est-à-dire d'un front commun, d'une quasi-OTAN des pays arabes, notamment du Golfe, plus Israël, contre l'Iran. Dans la réalité, moi je suis absolument pas sûr que le président Trump soit si fasciné par Israël, soit si fasciné par l'Arabie Saoudite et soit finalement si hostile à l'Iran. C'est quelqu'un qui n'a pas de vrais ennemis et quelqu'un qui n'a pas de vrais amis. Et ça, c'est finalement, ça pourrait à terme rapproché de la politique d'Obama.
Sa stratégie, vous l'avez dit, c'était de penser que si on serre au maximum, notamment si on serre au maximum les sanctions, l'Iran finira par plier, la population finirait par plier. Là aussi, peut-être qu'il y a un mauvais calcul, parce que de ce point de vue-là, pour l'instant en Iran, il ne se passe rien. De ce point de vue-là.
Alors il y a eu quelques frémissements, justement avec quelques manifestations. On regarde évidemment tous les indicateurs et les indicateurs sont quand même pas terribles. La grande question, c'est évidemment comment va réagir l'Iran si on lui serre trop le coup. Je rappelle quand même qu'il y a une référence pour les Américains, même s'il faut faire très attention aux analogies historiques. C'est quand ils ont serré le coup des Japonais dans les années 30, ça s'est terminé par Pearl Harbor. Donc je dis pas qu'il va y avoir Pearl Harbor sur Hawaï de la part des Iraniens. Mais on sait très bien que les sanctions, à un certain point, peuvent être contre-productives.
Est-ce qu'il est en train de conforter le camp des plus durs? Est-ce qu'il se passe quelque chose de ce point de vue-là? Est-ce qu'il a réussi à déstabiliser terriblement Rouhani ou pas?
Je pense, alors, que Rouhani soit en position difficile, et c'est toute la question, s'il y a des négociations avec Rouhani, quel poids aujourd'hui pèse Rouhani par rapport à Khamenei. Donc vous avez tout un tas d'interrogations sur le jeu politique interne de l'Iran. Je crois qu'il faut toujours se méfier aussi de cette idée que quand on fait une politique, on sert soit les durs, soit les modérés. Il y a tout un tas d'autres éléments de l'agenda politique iranien dans lequel les rivalités existent et c'est pas forcément les mêmes lignes de clivage que pour la politique extérieure ou vis-à-vis des États-Unis.
Mais au fond, est-ce qu'on sait ce que veulent les Iraniens? Parce qu'on fait beaucoup de... on imagine beaucoup ce que voudrait Trump, il voudrait les rencontrer ou pas, faire un coup à la Kim, effectivement, en Corée. Mais eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils ont intérêt à le rencontrer, ce Donald Trump, ou est-ce que ce serait vécu comme un aveu de faiblesse?
Je pense qu'à court terme, ce qui les intéresse, c'est la levée d'un certain nombre de sanctions. Ça, c'est vraiment un élément absolument fondamental.
C'est d'ailleurs ce qui vient de se dire à l'ONU. Si on lève les sanctions, je veux bien qu'on discute, évidemment.
Voilà, donc ça, je pense que c'est un élément qui est important. Et d'ailleurs, c'est tout le jeu du président Macron. C'est d'essayer de trouver un certain nombre d'éléments pour ces fameux 15 milliards de dollars, pouvoir les faire arriver jusqu'à l'Iran, sous une forme ou sous une autre. Donc ça, c'est un élément qui, effectivement, est fondamental. Après, la grande question, c'est à long terme, quels sont les objectifs de l'Iran. Moi, je crois que c'est des objectifs qu'on avait d'ailleurs aussi en partie à l'époque du Shah d'Iran, c'est-à-dire la puissance. Et d'ailleurs, c'est là où c'est la une vraie question finalement sur les responsabilités américaines dans la grandeur iranienne actuelle. C'est-à-dire que vous avez d'une part la guerre en Irak qui a renforcé d'une certaine façon les Iraniens, puisqu'on a dégommé, il faut dire le mot qui est exact, à la fois le rival irakien et en même temps les talibans qui étaient quand même très largement des ennemis de l'Iran, donc ça fait quand même un boulevard pour l'Iran. Et puis maintenant, avec le fait que ce soit les Américains qui eux-mêmes ont déchiré l'accord de 2015, eh bien finalement c'est eux qui sont d'une certaine façon en position du good guy.
Et même au fond, avec ce bras de fer autour de la guerre au Yémen et de l'Arabie Saoudite, le rôle de l'Arabie Saoudite au Yémen a extrêmement mauvaise presse auprès de la communauté internationale, donc y compris de ce point de vue-là, est-ce que l'Iran n'est pas en train de s'en sortir mieux, y compris en termes d'image, en fait.
Si, l'Iran est en train de gagner des points au Yémen, mais gagner des points aussi parce que aujourd'hui et depuis maintenant quand même pas mal d'années, vous avez en gros du côté des pays arabes une acceptation de la situation en Palestine. Et on a l'impression que les Iraniens sont les seuls à défendre les Palestiniens, sont les seuls à défendre le Hezbollah, qui lui-même se présente comme le fer de lance contre Israël. Donc en termes d'image, les Iraniens ont plutôt, non pas gagné, mais en tout cas sont en position relativement favorable.
On entend souvent dire que les Iraniens attendent patiemment au fond 2020 et la non-réélection de Trump. C'est un pari qu'ils ne sont pas sûrs de gagner, loin s'en faut.
Non, ça bien sûr, il faut toujours se méfier avec ça. Mais d'un autre côté, il faut toujours aussi se poser la question de ce que c'est qu'un deuxième mandat. On a le souvenir des années 80, avec le premier mandat de Reagan qui était très très agressif, très négatif, et qui a tendu la main ensuite à Gorbatchev. Et donc on peut aussi imaginer qu'un deuxième mandat ne se passe pas comme le premier.
Combien pèse l'affaiblissement de Netanyahou en ce moment dans ce billard à plusieurs bandes qui est en train de se jouer là ?
Alors d'abord, jusqu'où ira l'affaiblissement de Netanyahou ? Est-ce qu'il va pas finalement s'en sortir comme il s'en est sorti quand même déjà plusieurs fois ? Bien entendu, c'est une question absolument déterminante, c'est-à-dire que il y a quand même dans cette politique anti-iranienne dure une influence des Israéliens et des pro-israéliens aux États-Unis. Donc là, effectivement, et je crois que l'espèce de fenêtre d'opportunité qui avait été ouverte avec le G7 et les rencontres lors du G7 était quand même très largement dépendante des élections israéliennes. Donc ça fait beaucoup d'inconnus, et ça en fait une. De la même façon, de savoir si MBS, donc Mohamed bin Salman, va rester finalement le futur héritier, le futur homme fort, c'est pas si évident aujourd'hui, et donc ça peut compter aussi dans l'avenir des relations entre les États-Unis et l'Iran.
Parce que c'est peut-être ça aussi l'une des leçons de ce conflit à bas bruit qui n'en est pas un pour l'instant, c'est de réaliser jusqu'à quel point l'Arabie Saoudite est extrêmement faible, mais peut-être aussi déçue de l'attitude américaine. Est-ce que vous pensez pas que les Saoudiens attendaient quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus symbolique de la part de Trump ?
Alors il y a tout un discours saoudien, mais il faut toujours faire attention au discours officiel et ce qu'il y a derrière, de dire qu'on est déçu, que finalement il fait la même chose qu'Obama, puisque Obama, on a beaucoup raillé, considéré comme un tournant majeur de l'histoire récente, ce qui s'est passé en 2013 quand il n'a pas frappé en Syrie, et que là, finalement, on laisse un allié, complètement abandonné. D'un autre côté, il faut d'abord rappeler qu'il n'y a pas d'accord, d'alliance formelle entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Et puis, à long terme, si on fait le bilan de ce qu'a amené les États-Unis en termes de stabilité de l'Arabie Saoudite et sécurité de l'Arabie Saoudite, c'est plutôt pas mal. Mais le discours aussi de Trump qu'on entend assez régulièrement, c'est que l'Arabie Saoudite doit mériter l'aide américaine. Et donc, il faut payer, il faut aussi développer des systèmes de sécurité. Et la grande question, c'est est-ce que l'Arabie Saoudite peut être tentée, oui ou non, par le nucléaire ?
Pierre Grosser, en ce moment, là, aux Nations Unies, on a appris tout à l'heure que Merkel, elle est aussi de son côté, rencontrée à la fois les Américains, à la fois les Iraniens. Il y aura d'autres rencontres de ce type. Il y a Merkel, Johnson et Emmanuel Macron qui, ensemble, ont accusé l'Iran, à son tour, des attaques contre l'Arabie Saoudite, ce qui est un signe, évidemment, vers Trump. Et pendant ce temps, on a un Trump qui dit, non, mais moi, je vais bien, j'ai pas besoin de médiateur. Donc, à quoi on sert, nous, en fait, réellement, dans cette équation-là?
Moi, je crois qu'on essaye vraiment qu'un dialogue s'ouvre parce qu'on a peur de l'escalade et on voudrait au moins que les Iraniens ne reprennent pas l'enrichissement nucléaire, c'est-à-dire de revenir au moins à l'accord de 2015. Donc c'est pour ça qu'on voudrait que certaines sanctions soient levées et en échange que les Iraniens ne sortent pas de l'accord pour tenir le plus longtemps possible. Sinon, ce que j'ai dit tout à l'heure, et je pense qu'il est important pour la diplomatie française qui avait été quand même à la pointe, qui avait été très dure sur l'Iran pendant très très longtemps et même pendant les négociations de l'accord, c'est que nous, en fait, on souhaite un peu la même chose que les Israéliens et que les Américains, c'est-à-dire une renégociation de l'accord de 2015 qui inclut ces deux questions fondamentales pour Israël notamment, c'est-à-dire la question des missiles balistiques et la question de toutes les activités iraniennes, que ça soit en Syrie, en Irak ou au Liban.
Théoriquement, l'échéance, on va dire, c'est 6 novembre prochain où l'Iran doit annoncer ou pas d'ailleurs une nouvelle étape dans la remise en route de son programme nucléaire. Qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là?
C'est tout le problème des échéances en diplomatie. On l'a vu avec le Brexit, c'est que les échéances, quand ça arrange, c'est très très important. Quand ça arrange pas, c'est moins important. Voilà, c'est pas une date absolument fondamentale. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici le 6 novembre. Et puis on sera au cœur des élections présidentielles américaines à ce moment-là.
Voilà. Et puis demain à New York, il y aura la réponse du berger à la bergère, voilà. J'allais dire de l'iranien à l'américain. Ça se passera demain. Merci beaucoup, Pierre
Rosser. Merci à vous.
Merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
Le 18-20, la suite, on reste dans l'ambiance des Nations Unies. À quoi ça ressemble quand la délégation française, justement, Emmanuel Macron en tête, fait de la diplomatie, cherche à rapprocher les antagonismes, serre des mains utiles, prend des photos qui pourraient faire date. Cyril Gradiani nous emmènera dans les recoins. Et vous, Amélie Perrier, sous les radars comme d'habitude, vous nous emmenez notamment en Papouasie.
Oui, les Papous veulent leur indépendance ce soir.
Allez, merci, à tout à l'heure. C'est pas son genre, même dans le monde, à Julia Foyce de passer sous les radars. Et d'ailleurs, méfiez-vous des cruches, dites-vous.
Mais vous parlez pas de moi.
Non, bah non. Vous m'avez dit, méfiez-vous des cruches.
Certaines sont machiavéliques, vous verrez.
Quel sens du suspense, le monde à l'envers, Jean-Marc Faux.
Salutations.
Bonsoir, Jean-Marc. Quand les institutions font taire les politiques,
oh, le Brexit, j'adore le pouvoir judiciaire qui claque le beignet du pouvoir exécutif. C'est plaisant.
Allez, ce sera juste avant 19h et à tout de suite. Faites ce que vous avez à faire. On s'occupe du reste, le tour du monde n'est pas fini. Il passe par le Wisconsin, figurez-vous. William Zivilein, Anybody Gonna Move. Isn't anybody gonna move? Isn't anybody gonna move? Stick around, baby, don't leave too soon. You can stay with me for a couple more moves. Isn't anybody gonna move? I lost my soul for an hour or two. It's hard to kiss the girl when she's always crying. It's even worse to keep my head when they said she. Concentrating, dilated, pupils turn green when he looks upon me and my white guitar. He said, Bill Dylan, you should drive off of a cliff in your car. When am I gonna find the time to breathe? Those silly screeching sirens always searching for me. They wanna lock me up because I borrowed a car. It gets my blood boiling like a bucket of tar. Isn't anybody gonna move? Isn't anybody gonna move? Well, stick around, baby, don't leave too soon. You can stay with me for a couple more moves. Isn't anybody gonna move? I lost my soul for an hour or two. It's hard to kiss the girl when she's always crying. It's even worse to keep my head when they say she. Qui ne reconnaît pas le bruit de cette ville. Le bruit du monde est à New York. Retourne à New York, mais en réalité, ce bruit-là est beaucoup plus feutré ce soir. On entend parfois tout juste les talons sur les moquettes et on chuchote aussi. Ou alors on cavale dans les couloirs, on serre des mains qui comptent, on échange en aparté, on provoque des rencontres. On défait des tensions, ça se passe à 10 000 à l'heure, la diplomatie au moment de l'Assemblée générale des Nations Unies. Bonsoir Cyril Gradiani.
Bonsoir.
Et vous y êtes, vous avez marché dans les pas de la délégation française et de la délégation d'Emmanuel Macron pendant toute cette session. Et quand je disais 10 000 à l'heure, c'est aussi beaucoup de visages très différents, Cyril.
Ah, et dans une assemblée générale, ce qui est frappant quand vous la suivez en coulisses, c'est de voir tous les sujets qui s'entremêlent en moins de 48 heures. Le matin, quand vous êtes Emmanuel Macron, vous parlez Amazonie avec Harrison Ford. Le soir, c'est une rencontre avec le président Rouhani au 29e étage de l'hôtel iranien, sécurisé. Ça peut faire sourire par les Américains. Et le lendemain, eh bien, vous petit déjeunez avec le couple Bill et Melinda Gates. Bill Gates explique qu'il est clair que les pays doivent travailler ensemble. La France accueille la conférence pour le Fonds mondial à Lyon dans quelques semaines. Et donc, avec Emmanuel Macron, on parlait des progrès réalisés. Il accueille aussi le Forum pour l'égalité femmes-hommes. Et là, c'est Melinda Gates qui l'interrompt. Elle vante le leadership d'Emmanuel Macron sur des questions comme le climat. Et il aide le monde à progresser et à s'améliorer. Emmanuel Macron n'entend pas ce concert de louanges. Il s'est déjà éclipsé depuis de longues minutes, direction l'ONU. Mais comme il est en retard, eh bien son autre rendez-vous, le directeur du Fonds mondial Peter Sainz, il l'a improvisé dans sa voiture. Le cortège du président reste coincé à deux blocs de l'ONU en attendant le passage du régional de l'étape de Donald Trump. Dans sa voiture, Emmanuel Macron s'impatiente et il décide de finir à pied. À l'arrivée dans le bureau France, deux pièces exiguës où s'entasse la délégation, il croise une vieille connaissance.
En 2 heures, on a fait. Ça m'a fait triste. Hein.
Ah, mais bon, on l'a rencontré.
Cauchemar. Mais c'était vrai, je pense qu'on a été au bout de ce qu'on pouvait faire. Hein.
Pendant ce temps, Donald Trump commence son discours à la tribune. Tout le monde le suit dans le bureau. Emmanuel Macron a un plan pour lui reparler. Il l'a concocté avec ses équipes dimanche à 10 000 mètres d'altitude lors de la réunion préparatoire dans son avion. Il fallait l'attraper dans la salle derrière. Mission accomplie, Donald Trump a été attrapé. Mais il n'y a pas eu la rencontre tant espérée par la délégation française. Une poignée de main, Trump, Rouhani. Sauf que la diplomatie onusienne, c'est aussi une question de jonglage, comme nous le confie Emmanuel Macron.
Il y a en effet beaucoup de rendez-vous. Il y a énormément du soir au matin de formats différents, de réunions larges, de bilatérales. Mais à la fin, il faut savoir les objectifs qu'on poursuit. Moi, je viens là avec des objectifs. Poursuivre sur l'Iran, réussir à mobiliser sur l'Amazonie et le climat, et réussir à lever les fonds nécessaires pour le Fonds mondial. Et les choses avancent pour le moment correctement. Il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous. Puis enfin, ça permet de voir aussi des collègues qu'on ne voit pas régulièrement, qui sont à l'autre bout du monde, pour lesquels on n'a pas forcément prévu de déplacement. Et se retrouver à New York est une facilité. J'irai au Liban sans doute en 2020, plutôt au deuxième semestre. Ça m'a permis hier de voir le président Aoun. Je vais exactement voir Mahmoud Abbas dans quelques instants.
Et pendant que le président de l'autorité palestinienne attend Emmanuel Macron, sa cellule diplomatique peaufine son discours. Depuis hier, ses conseillers corrigent, recorrigent, le texte fait des allers-retours. Mais à l'Elysée, on sait qu'avec Emmanuel Macron, un discours n'est finalisé qu'au dernier moment.
Je sais ce que je veux dire sur le contenu et sur les principaux sujets d'ailleurs que nous venons d'évoquer. Je pense qu'il faut rendre compte. Mais je pense qu'ensuite, la ligne directrice, elle nécessite des moments de réflexion et une sincérité. Je pense que la sincérité et le cœur sont importants, y compris à la tribune des Nations Unies.
De la sincérité, une petite dose d'improvisation, Fabienne, si vous l'avez compris. Quand le président français montera la tribune dans quelques minutes, son discours est prévu à 14h, heure américaine, 20h pour vous. Le retour à Paris pour Emmanuel Macron est prévu demain.
Et pour vous aussi, Cyril Gradiani, merci beaucoup et bon retour.
Gracias.
Et quand le bruit du monde passe aussi sous les radars, Amélie Perrier, le retour, ça se passe en Papouasie, une province de l'Indonésie en pleine ébullition depuis un mois maintenant.
Oui, vous l'entendez, hier au moins 26 personnes ont été tuées dans des émeutes, dans la ville de Wamena notamment. Des centaines de jeunes étaient sortis dans la rue pour manifester, ça a dégénéré. Des bâtiments publics ont été incendiés, certaines victimes ont péri dans les flammes. Beaucoup de ces victimes apparemment n'étaient pas des Papous, mais des Indonésiens qui venaient d'autres provinces, et cela fait craindre le pire, une escalade des violences entre communautés. Car tout est parti, en août, d'un incident raciste contre des étudiants papous sur l'île de Java, une autre province indonésienne, dans la grande ville de Surabaya. Il n'en fallait pas plus pour relancer les revendications séparatistes de l'île. La Papouasie et ses ressources naturelles sont sous le contrôle de l'Indonésie depuis l'indépendance dans les années 60. Et même si les Papous souffrent de la pauvreté aujourd'hui, ce qu'ils réclament avant tout, c'est un référendum, comme le dit cet étudiant Mika Dabé au micro de TV5 Monde.
Les Papous ne veulent pas de développement d'infrastructures ou d'aide sociale. Ce qui s'est passé à Surabaya a donné lieu à un racisme qui pousse les Papous aujourd'hui à demander la tenue d'un référendum d'indépendance.
Voilà, la Papouasie occidentale et ses 3 millions d'habitants réclament leur indépendance comme leurs voisins de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce territoire-là est indépendant de l'Australie depuis 1975.
Comment les vacances à Mykonos sont tournées au cauchemar pour un touriste libanais?
Alors cet homme de 65 ans passait tranquillement des vacances en Grèce quand il a été arrêté jeudi dernier, accusé d'être le pirate de l'air qui a détourné l'avion de la TWA en 1985. Pour vous resituer, deux hommes avaient pris le contrôle d'un Boeing. Écoutez cette archive du journal d'Antenne 2, le 15 juin 1985.
Madame, monsieur, bonsoir. Attente angoissante et imbroglio dans l'affaire du détournement du Boeing de la compagnie américaine TWA, qui ce soir se trouve toujours sur la piste de l'aéroport d'Alger. Le résumé des événements, Daniel Lecomte.
20h30 hier soir, le Boeing de la TWA décolle d'Alger, destination Beyrouth. Les autorités libanaises refusent l'atterrissage et bloquent les pistes. Les pirates ordonnent alors au commandant de bord de survoler la capitale libanaise au ras des maisons, puis ils exécutent un passager, un marine américain que l'on voit sur cette photo. 10 minutes plus tard, les pistes seront dégagées, l'avion se pose. L'otage est abandonné quelque part sur la piste, l'avion fait 500 mètres, puis s'immobilise.
Voilà, les passagers ont été relâchés au fur et à mesure. Certains sont restés otages pendant 3 semaines. Les terroristes demandaient la libération de plus de 700 prisonniers chiites retenus par Israël. Or, jeudi dernier, un Libanais donc est arrêté après un contrôle de son passeport sur un bateau en Grèce. On le présente comme l'un des pirates de l'air de la TWA, celui que l'on cherche depuis plus de 30 ans. Il est menacé d'extradition vers l'Allemagne. En fait, il s'appelle Mohamed Ali. Il est journaliste, membre du syndicat des journalistes de Beyrouth, et c'est un homonyme du suspect recherché. Le terroriste s'appelle Mohamed Saleh et son père s'appelle Ali. Or, notre pauvre touriste, arrêté la semaine dernière, s'appelle Mohamed Ali. Là, c'est un prénom composé. Il a finalement été libéré hier soir après une série d'interrogatoires de la police antiterroriste grecque et d'un enquêteur allemand. Ce matin, Athènes promet de faire tout son possible pour faciliter le retour de Mohamed Ali à Beyrouth. C'est bien le moins quand une homonymie en cache une autre. Voilà, j'imagine qu'il préfère qu'on le confonde avec l'autre.
Ah bah ça c'est clair, ouais, sûrement.
Je vous parlais hier aussi de la grande ville de Guinée équatoriale, ouais, privée d'eau depuis plus de 3 semaines. On apprend ce matin que l'eau est enfin revenue. Les autorités n'ont pas fourni d'explication dans ce pays riche, mais gangréné par la pollution.
Et c'est peut-être grâce à vous, allez savoir.
Ah, peut-être qu'ils écoutent.
Allez, vous n'êtes pas à l'eau, vous êtes donc à la bière, puisqu'on termine à la fête de la bière en Allemagne. Ouais, non, sérieusement, Amélie.
Oh oui, cette ambiance.
Ouais, oui, bah oui.
Je sais que vous adorez.
Oui,
c'est la
beaucoup.
Très fameuse Oktoberfest. Mm-hmm. Elle a débuté ce week-end à Munich et va durer 2 semaines. Ces chants traditionnels, ces culottes de peau que vous portez si bien, Fabienne.
Bien sûr.
Les robes traditionnelles aussi pour les femmes et surtout les masses, les chopes d'un litre de bière que vous enchaînez des heures durant. C'est le moment choisi par la cour allemande pour rendre public un arrêt affirmant que la gueule de bois est une maladie. Oui, 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 les juges de Francfort ont donné raison à une association contre une société qui vendait une boisson anti-gueule de bois, un moyen selon l'entreprise de se remettre plus facilement d'une fête arrosée. Or, selon la Cour, un produit alimentaire ne peut pas s'attribuer des propriétés de prévention ou de traitement d'une maladie. Et le terme de maladie se comprend comme un dysfonctionnement, même minime et provisoire, de l'état normal du corps. La gueule de bois est donc une maladie. Une boisson ne peut se prévaloir de soigner la gueule de bois, c'est QFD. La société n'a plus le droit d'utiliser cet argument pour vendre ses boissons après l'autre moyen d'éviter la gueule de bois, c'est de faire comme nous, hein, Fabienne, on reste sobre.
Voilà, non, mais si la gueule de bois est une maladie, ça veut dire qu'on peut prendre un congé maladie après une fête.
Ah, il faut demander à la patronne.
Et ça se réfléchit. Allez, Far From Born Again, c'est sur France Inter. Alex Cameron dans la playlist.
They just neglect her. They got her singing the blues. It's either no God or there isn't. He don't care about you. She'll keep on hustling, make money till the cash starts rustling. She's got the keys to the till. Her scent is dancing like a pie up on the windowsill. I'm seeing in control, in command. She's just a woman in charge of a plan. Some love 'em and then leave 'em. Some want you to stay. It doesn't make a difference if she does it for pay. Far from born again, she's doing porn again. They're angry little dogs, but she don't care what they say. Same men that tell her stop are the same suckers that pay. Far from born again, she's doing porn again. There's no romancing when a woman makes her money from dancing. She's not gonna fall for your charm. You have to call her stupid just to comprehend what she does. Nah, she's doing sex work, pays bills while you all still text jerks. She buys her own damn meal. You sit at home and masturbate while she plays grown-ups for real. You seeing what I'm seeing? In control, in command. She's a woman earning more than a man. Some love 'em and then leave 'em. Some want you to stay. It ain't your goddamn business if she does it for pay. Far from born again, she's doing porn again. Girl's a new creation, even after two kids. She'll change your whole damn life, you just watch one of the vids. Far from porn again, she's doing porn again.
Far from born again. Alex Cameron, c'est son nom. Allez, mesdames et messieurs, et autres genres, place, place, c'est Julia Foyce qui passe.
France Inter. Un jour dans le monde.
Et Julia, chaque semaine, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. On commence avec les chiffres de la semaine.
Oui, aujourd'hui, je vous en mets plusieurs pour le prix d'un. Allez, 19. D'abord, c'est le nombre de pays signataires d'une déclaration passée hier sous les radars de l'ONU, comme dirait Amélie Perrier. En marge du sommet pour le climat et porté par les États-Unis, ils sont donc une petite vingtaine à rappeler très officiellement leur opposition à l'avortement. L'IVG n'étant, selon eux, ni un droit fondamental, ni un droit international. Bien. À quelques jours de la journée mondiale de l'IVG, ça, c'est samedi, je me permettrai juste de rappeler une ou deux réalités fondamentales et internationales. Aujourd'hui dans le monde, 40% des femmes en âge de procréer n'ont pas le droit d'avorter ou le peuvent sous conditions très strictes. Résultat, 22 millions d'avortements clandestins et donc à risque sont pratiqués chaque année selon l'OMS. Avortements illégaux à la va-vite et accessoirement à l'aiguille à tricoter qui provoquent eux 47 000 décès par an, soit 128 femmes par jour. Et ces chiffres risquent encore d'augmenter tant le vent semble tourner contre l'IVG ces derniers mois un petit peu partout dans le monde. L'Argentine a dit non, non et encore non. À chaque fois que la loi revenait devant le Sénat, Donald Trump lui dit oui en cas de viol et d'inceste uniquement, merci beaucoup. La droite chrétienne lui emboîte le pas et dans un bel élan de solidarité, un à un, les États américains adoptent des législations de plus en plus restrictives sur le sujet. En France aussi, hein, les opposants à l'avortement sortent du bois. En ce moment, ils étaient 50 000 en janvier dernier à Paris. Émus, troublés, galvanisés par les violons de la poésie de la vie.
Un pays qui tue ses enfants perd son âme. Un pays qui sauve ses enfants sauve son âme. Supprimer des êtres humains parce qu'ils ont un gène ou un chromosome en plus ou en moins, est-ce que c'est scientifique? Nous ne voulons ni avortement, ni euthanasie, ni tri, ni congélation, ni manipulation de l'embryon.
Ok. Bon, petite question Fabienne, ouais. Quel est le point commun entre les signataires de cette déclaration à l'ONU, Donald Trump, le Sénat argentin et celui qu'on entendait là sur la tribune? Alors, point commun. La testostérone, voilà. Oui, ceux qu'on entend le plus vigoureusement s'opposer à l'avortement sont majoritairement des hommes qui, a priori, enfin je m'avance peut-être un petit peu, vous me direz, mais quand même, je crois qu'ils n'auront jamais à porter un enfant qu'ils ne désirent pas ou ne peuvent pas élever, pas plus qu'ils n'auront à se faire aspirer, hein, le cas échéant. D'où, tout à coup, cette furieuse envie de laisser une femme leur répondre, une femme qui a tant fait pour la cause des femmes en général, pour celle de l'IVG en particulier. Non Fabienne, elle ne porte ni chignon, ni veste en tweed, mais un brushing et un crop top à faire pâlir d'envie toutes les années 90. Rachel dans Friends, ça vous parle?
Ah oui, totalement, je me souviens très bien de cette scène.
Dans un épisode de la série, elle est enceinte et part en urgence à l'hôpital à cause de contractions subites. Ross, le père Henri, il lui explique que, non, c'est pas qu'il s'appelle Henri, c'est qu'il en rigole, bref, et lui explique que ça n'est pas grave et que la plupart des femmes ont ces contractions sans même s'en apercevoir. Et alors là, attention, dans l'extrait, il y a du culte.
God, that's no big deal. Most women don't even feel them.
Okay, no uterus, no opinion.
Pas d'utérus, pas d'opinion. En fait, tu sais quoi, c'est aussi simple que ça.
Allez, testostérone un jour, testostérone toujours, on enchaîne avec vos deux hommes de la semaine.
Ils sont beaux, quoique un peu vieux, un peu maigres, un peu poussiéreux, mais ils sont beaux parce qu'ils sont amoureux. Les amants de Modène, c'est comme ça qu'on les a surnommés lorsqu'on les a découverts en 2009 dans une nécropole italienne datant du 4e siècle. Pas très vivant, hein, les amants, ce sont deux squelettes en fait, qui se tiennent par la main et se regardent les yeux dans les yeux, pardon, les trous dans les trous. Et c'est l'amour plus fort que la mort, si vous voulez Fabienne. C'est l'âme qui transcende les corps, c'est un chant d'amour ultime hurlé à la face d'un monde globalement anxiogène et cynique. Alors le monde a adoré. Alors les images des amants de Modène ont tourné, 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 mais là le monde vient de s'étrangler. Oui, car ayant analysé leur émail dentaire, les chercheurs sont donc formels, les amants de Modène sont des hommes. Deux, l'un et l'autre, ensemble, qui se tiennent la main et se regardent les trous dans les trous. Mais attention, les chercheurs illico de préciser, l'homosexualité étant une pratique interdite, ces deux hommes-là n'auraient pu être enterrés ensemble s'ils avaient été amants. Ils ont certes une relation de proximité assez particulière, mais précisent les chercheurs, on cherche encore laquelle. Allez, d'accord, on va se dire qu'on cherche encore. Hein.
Allez, on va vite et on termine avec le fameux objet de la semaine, la cruche.
Oui, il y en a un paquet, hein, si on en croit cette étude de Match.com, l'équivalent britannique de notre mythique, 6 femmes sur 10, lors d'un premier rendez-vous avec un homme, jouent les idiotes pour ne pas effrayer leur potentiel amant et plus si stupidité, pardon, si affinité. Et donc, on oublie la répartie, on se fait expliquer la vie et on est une sur cinq à vite, vite, vite changer de sujet si on sent l'homme en face en difficulté. On en conclura donc que 1. Les plus cruches sont en vrai les plus malignes et que 2. Jean-Marc, le jour où vous voulez pécho de la débilette, vous vérifiez avant qu'elle le soit vraiment.
Voilà, Jean-Marc, c'est compris ?
C'est noté.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde à l'envers, Jean-Marc Four, ces dernières semaines, l'actualité en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie, voire en Israël, a été d'une telle confusion que s'est installée l'impression qu'une démocratie, d'une démocratie un peu perdue, une démocratie sans queue ni tête. Et dans ce contexte, la décision, ce midi, de la Cour suprême britannique sur le Brexit, pour vous est majeure parce qu'elle vient, à l'inverse, de redonner une boussole à la démocratie, la boussole des institutions, et c'est votre monde à l'envers.
Quelle claque quand même, hein. Mais quelle claque, quelle gifle phénoménale pour Boris Johnson. Que disent, hein, rappelons-le, au Premier ministre britannique, les 11 magistrats suprêmes à l'unanimité. Votre décision de suspendre le Parlement pendant 5 semaines est illégale. Elle touche aux fondamentaux de la démocratie. Elle est nulle et non avenue. Boum ! Disons-le tout net, cette façon de remettre Bojo à sa place a quelque chose de jouissif. Mais ça va bien au-delà de la petite histoire. C'est en effet, à mon sens, une décision majeure qui remet de l'ordre dans la maison démocratie et à la valeur d'exemple bien au-delà de la Grande-Bretagne. Prenons un peu de distance. De quoi s'agit-il ? En fait, de la célèbre séparation des trois pouvoirs, hein, exécutif, gouvernement ou chef d'État, législatif, parlement, judiciaire, les juges. Cette séparation, clé de voûte de la démocratie théorisée par les philosophes des Lumières, Locke, Montesquieu. En l'occurrence, à Londres, le pouvoir judiciaire vient de recadrer le pouvoir exécutif et sa tentation de passer en force. Les juges ont pris la main, vu que le Parlement, le pouvoir législatif, est aux abonnés absents, on le sait, tant il est divisé. Et c'est d'autant plus spectaculaire dans le cas britannique qu'il n'y a pas de constitution écrite là-bas, hein, tout est tacite. Donc ce 24 septembre 2019, il va sans doute rester dans les manuels l'histoire constitutionnelle chez nos voisins. Le troisième pouvoir, le judiciaire, vient de ranger la maison, de dire « la loi s'impose à tous, même au Premier ministre ». Et les juges vont d'ailleurs peut-être faire la même chose en Israël s'ils confirment les poursuites contre Netanyahou. En un mot, c'est la revanche des institutions.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que cet épisode montre bien combien les institutions sont le socle de la démocratie.
Et c'est majeur. On peut prendre un autre exemple récent, c'est l'Italie. Là encore, ce sont bien les institutions qui ont résisté à la tentative de coup de force de Matteo Salvini le mois dernier. Le leader de l'extrême droite, vous vous souvenez, avait fait exploser la coalition au pouvoir en misant sur de nouvelles élections. Le président de la République, le président du Conseil, les parlementaires dans leur majorité se sont mis en travers en évoquant le respect des institutions. Le Parlement n'a pas à être dissous si une majorité peut être constituée. En Italie, le pouvoir législatif vient donc de barrer la route aux velléités anticonstitutionnelles d'une partie du pouvoir exécutif. Ce sont aussi les institutions qui permettent à un pays comme l'Espagne de continuer à fonctionner malgré les élections à répétition. Et là, il y a une chose qui frappe. À chaque fois, la tentation de la dérive autoritaire vient de l'exécutif. Gouvernement, Premier ministre, chef d'État. La tentation de tout décider tout seul en mettant au pas le Parlement et les juges. C'est précisément ce qui menace dans des pays comme la Pologne ou la Hongrie. Donc oui, les juges britanniques viennent, c'est un symbole, de rendre un fier service à la démocratie.
Et vous allez nous dire que la démocratie est sauvée, c'est ça l'idée ?
Non, bah, vous me connaissez, on n'en est pas là. C'est sauvé pour ce coup-ci, mais le fond de sauce ne change pas. C'est-à-dire que les facteurs de confusion sont toujours là. Ils sont quoi ces facteurs ? Les réseaux sociaux continuent d'exercer leur dictature, celle de l'immédiateté, celle de la primeur à celui qui parle le plus fort et en dernier. C'est sur cela que misent des hommes comme Salvini en Italie. L'offre politique est éclatée, plus déboussolée que jamais. Les repères classiques, gauche-droite, conservateurs-progressistes, sont devenus flous. Les réseaux sociaux, là encore, alimentent des logiques intolérantes, quasiment de secte, hein, chacun dans son coin, uniquement avec ses amis. La quête du consensus n'est plus d'actualité. Et c'est comme ça que la démocratie se tire progressivement des balles dans le pied. Il n'y a plus de majorité, donc les parlements deviennent faibles, donc ça devient ingouvernable. La tentation de l'homme fort apparaît, remettre son destin entre les seules mains de l'exécutif. C'est toujours la même histoire, avec les mêmes causes qui produisent les mêmes effets, et le pouvoir judiciaire ne sera peut-être pas toujours là pour résister.
Le monde à l'envers, et Jean-Marc Four, tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci Jean-Marc, à demain.